OK, alors bienvenue à ceux qui ont bravé, mais finalement, les conditions routières sont pas si pires. Pour l'instant, c'est dans la course, c'est ça, mais sur les routes, ça va assez bien. Alors, bienvenue dans le cours en esprit et en vérité. Ce matin, on va compléter la leçon 2. Et puis, je pense, si je me trompe pas, que les deux prochains dimanches, il n'y a pas de cours biblique autour de la semaine de la relâche scolaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en vacances en famille. Alors, on va aller ensemble dans un mot de prière. Bien, Père éternel, j'aimerais t'adorer ce matin, Seigneur, en reconnaissant que tu es le Dieu souverain, souverain sur les éléments de la nature, comme la pluie verglaçante qu'on a à l'extérieur, souverain sur les détails de nos vies, Seigneur. Comme on va le voir ce matin, nous t'appartenons. Nous sommes à la fois tes enfants, tes serviteurs, Seigneur. Et c'est avec respect qu'on veut s'approcher de toi, c'est avec reconnaissance qu'on veut s'approcher de toi. Non pas en te craignant comme un Dieu qui serait dur, rempli de colère, mais en te respectant profondément, Seigneur, comme celui qui gouverne nos vies, celui qui nous accorde le souffle, celui qui décide si ce matin je me réveille ou si tu me rappelles dans la gloire, Seigneur. On veut te demander de venir nous faire grandir comme adorateurs. Seigneur, lorsqu'on parle d'adoration, on parle de l'aspect le plus intime de notre relation avec toi. Et nous avons beaucoup de difficultés à nous comprendre nous-mêmes, souvent à saisir le sens de nos émotions, l'état de notre âme, Seigneur. Puis pourtant, toi, tu es là, tu es témoin de nos cœurs, Seigneur. Puis tu nous as donné cette belle promesse, Seigneur Jésus, tu nous as promis qu'un jour viendrait et que ce jour est arrivé où les adorateurs adoreraient en esprit et en vérité, Seigneur, et nous. Nous comprenons que ton Esprit Saint habite en nous comme chrétiens. Viens consoler nos cœurs, viens nous assister. Alors, Seigneur, je te demande de nous faire grandir ce matin, puis nous remplir de joie. La joie de savoir que nous avons accès dans ta présence, Seigneur. Que nos paroles te sont agréables parce que nous avons été lavés, purifiés, pardonnés à cause du sacrifice de Christ, Seigneur. Et que nous faisons maintenant partie de ta maison. Reçois notre adoration ce matin, simplement, Seigneur, par ce temps de réflexion, ce cours, Seigneur, déjà nous sommes en train de te célébrer, en train de t'élever. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, on est dans la leçon 2. On va compléter la leçon 2 ce matin. Puis on va, comme je le mentionnais la semaine dernière, on va citer des mots grecs et la raison de cela, donc on va citer quelques mots hébreux, quelques mots grecs, et la raison de cela, c'est que les auteurs du Nouveau Testament, lorsqu'ils citent l'Ancien Testament, citent souvent la version grecque de l'Ancien Testament, qu'on appelle la Septante. Donc, à l'époque du Nouveau Testament, un bon nombre de Juifs se servaient eux-mêmes de la Septante parce qu'il y avait toute la question de la diaspora, ceux qui avaient été déportés, ceux qui ne vivaient plus en Israël. Et un bon nombre d'entre eux ne maîtrisaient même pas l'hébreu. Et donc, on se servait de la Septante. Mais l'avantage aussi, évidemment, en citant la Septante, c'est qu'on est en train de citer le grec, qui était la langue la plus commune à l'époque dans l'Empire romain, la langue des intellectuels, la langue la plus répandue aussi. Il y avait le latin qui était en train de s'imposer, mais c'était le grec qui était le plus présent. Donc, lorsque les auteurs du Nouveau Testament citent la version grecque de l'Ancien Testament, bien, ils sont accessibles. Ce qu'ils sont en train de citer est accessible à un très, très large auditoire. Mais la richesse pour nous dans ça, c'est que, par exemple, l'hébreu est une langue qui est très, très, très imagée. Donc, elle est très riche en métaphores. Mais le grec est une langue qui est beaucoup plus précise. On pourrait dire que ça se rapproche. Le français vient beaucoup du grec. Puis, c'est une langue qui est plus précise. Fait que des fois, d'aller voir justement la version hébraïque de l'Ancien Testament puis la version grecque, ça nous permet d'attraper des subtilités dans le sujet qu'on est en train d'étudier, qui est l'adoration. Ça va? Ça va comme ça? Puis on va voir ce matin des distinctions entre la compréhension de l'adoration chez les Juifs, à cause de la révélation de la parole de Dieu, puis chez les peuples environnants qui adoraient aussi. Tout le monde adorait à l'époque. Tu pouvais adorer Dieu l'Éternel ou tu adorais des idoles, mais tout le monde adorait. Et donc, y a des nuances importantes même de ce côté-là. Ce qu'on a dit, ce qu'on a vu jusqu'à présent, quatre grands thèmes qui ressortent de l'Ancien Testament sur l'adoration, c'est premièrement le fait qu'on adore un Dieu qui se révèle à nous. Donc, on n'approche pas Dieu selon nos termes et conditions, mais selon sa révélation, ce que lui nous fait connaître de nous. Un beau parallèle, c'est les relations humaines. J'ai approché mon épouse la première fois sur la base de ce que moi je pouvais voir, mais notre relation va s'approfondir si je suis à l'écoute de ce qu'elle a à me dire sur elle-même. Puis là, notre relation va devenir plus riche. Si au contraire, je ne suis jamais en train d'écouter, mais notre relation va être assez superficielle, parce que ça va être simplement sur la base de ce que moi je peux déduire. Or, le Dieu de la Bible est une personne. On croit que Dieu est une personne. Cette personne-là a des choses à nous dire sur elle-même. Et notre grand privilège avec les Saintes Écritures, c'est qu'il a dit beaucoup de choses sur lui-même à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, pour nous, on adore Dieu sur la base de ce qu'il nous révèle de lui. C'est très différent de ce que vous voyez avec plein de gens dans leurs croyances puis dans leur manière de... Par exemple, hier, j'étais à un souper avec des amis, puis on s'est mis à jaser. Bien, en fait, je faisais connaissance avec des gens avec qui je fais du sport. Fait qu'ils me posaient des questions, qu'est-ce que je fais dans la vie? Pasteur, protestant, fait que souvent peu de connaissances, quelques Français, fait que ils connaissent plus ou moins ça, c'est très séculier comme pays quand même. Puis là, on jasait de ça, puis il y avait un jeune homme qui était à côté de moi qui disait, ben, moi j'ai du respect pour les croyances des gens, mais pour moi, c'est j'y vais avec des principes comme l'amour, puis j'y vais quand même intuitivement. Bon, c'est ça, intuitivement, ça veut dire qu'il part de ce qu'il ressent intérieurement, puis là, il essaie de concevoir. Il croit dans un être quelconque, là, lui. Il croit dans un, peut-être, je ne sais pas s'il dirait même un créateur, mais il croit qu'il y a un être quelconque, mais il va à l'intuition. Pour notre part, on n'avance pas à l'intuition pour adorer Dieu. On avance sur la base d'une révélation de la part de Dieu. Fait que c'est sûr qu'il y a une part d'émotivité, d'intuition dans notre manière de répondre, mais on cherche à répondre à ce que Dieu nous révèle. Premier principe. Deuxième principe, c'est le Dieu qui rachète. Donc, il nous, je vais le dire comme ça, il nous qualifie pour devenir des adorateurs. Lorsqu'il va racheter Israël, il va les sauver et il fait d'eux son peuple. Parce qu'avant, ils étaient, dans un sens, comme les autres peuples du monde. C'est pas vrai, là, il y avait déjà eu des alliances, puis il y avait déjà eu des promesses, mais vous comprenez, il doit les qualifier parce que ce sont des pécheurs, comme tous les êtres humains. Et ça, c'est une distinction super importante de l'adoration à la lumière de la Bible. Ça va être là constamment dans notre compréhension de l'adoration. Troisième élément qu'on avait vu, c'était qu'il y a une alliance qui est contractée. Donc, non seulement il rachète, mais il entre dans une alliance permanente. Il y a une entente de relation qui est établie entre Dieu et son peuple. Et donc, cette alliance-là, quatrièmement, va dicter, va donner une vocation à ce peuple-là. Quand moi, je me suis marié avec Esther, Paul me dit, Yannick, tu as décidé de te marier avec Esther, tu as décidé que tu allais servir et prendre soin de ton épouse. Celui qui est célibataire, pour lui, servir Dieu, c'est tout un autre champ de liberté. Pour moi, ça vient de qualifier de plein de manières, c'est quoi servir Dieu? C'est prendre soin de mon épouse, servir Dieu. Pour le célibataire, ça ne veut pas dire ça du tout. Mais puisque je suis entré dans une alliance avec Esther, j'ai une nouvelle vocation. Ma vocation vient de définir comment je vais la servir, comment je vais l'aimer. Bon, mais quand le peuple d'Israël est racheté, rentre dans une alliance, il y a une nouvelle vocation. Ces quatre thèmes-là, on prend le temps de les souligner parce qu'ils demeurent. Il y a vraiment une continuité dans ça. Ça va se transformer. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé déjà de l'idée que pourquoi est-ce qu'on va vers l'Ancien Testament pour étudier l'adoration, c'est qu'il y a des éléments qui sont en continuité vers le Nouveau Testament, puis il y en a qui sont en discontinuité. Par exemple, on n'offre plus de sacrifices au temple. Il y a une discontinuité. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui est accompli. Ce qu'on a commencé à dire la semaine dernière avec la leçon 2, c'est que dans l'Ancien Testament, le langage le plus commun pour parler d'adoration fait référence à la notion de se prosterner. En grec, on va utiliser proskuneo. Donc, c'est vraiment l'idée ça exprime comme la réaction naturelle dans la présence de Dieu. Puis on a plein d'exemples. On a Abraham qui va le faire spontanément. On a Moïse qui va le faire lorsqu'il est en présence de Dieu. Il va se prosterner devant Dieu. Donc, c'est une réaction tout à fait naturelle, spontanée, d'aller se prosterner devant Dieu. Puis dans l'Ancien Testament, souvent l'adoration est liée avec quelque chose de corporel. Ça a quelque chose de physique. D'accord? Puis comme je vous dis, lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament, l'adoration va utiliser encore le terme proskuneo, qui est celui de se prosterner. Donc, une des choses que je mentionnais la semaine dernière, je pense que j'ai terminé sur cette idée-là, c'est que si dans votre vision des choses, l'adoration, c'est fondamentalement quelque chose d'intérieur qui n'a rien à voir avec une expression physique extérieure, bien, il y aurait de la place à réviser un petit peu votre compréhension de l'adoration, parce que partout dans les Écritures, l'adoration va se traduire d'une manière ou d'une autre. On va voir soit par le service, soit par le fait qu'on va se prosterner. Donc, on a tendance à être très, très, très cérébral. Mais dans les Écritures, on ne voit pas cette espèce de comme détachement-là entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe avec mon corps. Et moi, j'aimerais ça vous encourager, si vous avez tendance à être super cérébral dans votre manière d'adorer Dieu, vous pouvez décider cette semaine, quelqu'un, vous allez prendre un temps de prière, vous allez vous mettre à genoux pour prier. Puis juste voir qu'est-ce que ça fait comme disposition dans votre cœur. Parce que Dieu nous a créés entiers, corps, âme et esprit. Puis notre corps fait partie de ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Je vais faire 2 secondes de pop psychologie, là. Vous avez sûrement entendu, parce qu'on l'entend un peu partout, que les gens qui sourient, juste prendre le temps de te regarder dans le miroir puis de t'adresser un sourire à toi-même, ça t'aide à être plus de bonne humeur. Ça a l'air assez ridicule, tu sais. Je me regarde dans le miroir puis je m'offre un sourire puis hop, tout d'un coup, je me sens un peu plus de bonne humeur. Mais la réalité, c'est que notre corps, il est connecté, tu sais. Le cerveau, il n'est pas à l'extérieur du corps, là. Il ne flotte pas quelque part, là. Fait que tout ce que je vous dis, c'est que dans les Écritures, on voit, hein, dans tout le langage, une relation entre ce qui se passe avec mon corps puis mon adoration. C'est pas pour dire que... c'est un anglicisme, ça, c'est pas pour dire. Je suis pas en train de dire que je peux pas avoir une prière intérieure que personne va voir. Non, non, on a quelques instances, hein, de gens qui adressent une petite prière rapide. Seigneur, je pense que c'est une Néhémie qui adresse une prière rapide. Je ne pense pas que c'était nécessairement visible extérieurement ce qui est en train de se passer là. Mais donc, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas le faire. Au contraire, Dieu est toujours accessible et il a toujours accès à nos pensées. Mais il y a quelque chose qui est là. Au minimum, je vous dirais, ce serait certainement inconvenant pour des chrétiens de passer leur temps à juger des gens qui sont plus expressifs dans leur adoration. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on doit encourager le désordre dans la grande assemblée. Paul parle d'avoir de l'ordre, tout ça. Mais s'il y a quelqu'un qui est plus expressif, puis que ton réflexe à toi qui est un peu plus timide, puis c'est de commencer à juger cette personne-là en disant « elle est en train de faire un spectacle », il faut juste que tu réalises que tu aurais jugé que tous les Juifs de l'Ancien Testament faisaient un spectacle, ou à peu près, puis que tous les chrétiens du Nouveau Testament étaient en train de faire un spectacle, d'accord? Parce qu'ils étaient très expressifs. Fait que si tu juges les expressifs, ça se peut qu'ils soient en train de faire un show. Je veux dire, Jésus adresse ça aussi, hein? On fait des choses pour que les gens nous voient, donc ça se peut. Mais ce n'est pas ta liberté à toi de juger son cœur pour savoir s'il est en train de faire un show ou s'il est vraiment en train d'adorer. Tout ce que je te dis, c'est que bibliquement, être expressif lorsque tu es en train d'adorer, ça tient la route, hein, s'il vous plaît. C'est plus ça qu'on voit dans les Écritures. Donc, ayons cette grâce en Église de ne pas se juger les uns les autres, mais au contraire d'être inspiré par ce qu'un ou l'autre peut exprimer à travers ça. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires là-dessus? On va être bon pour couvrir la leçon ce matin, là. Je peux me permettre. Est-ce qu'on a un petit micro pour. Est-ce qu'on a le micro pour prendre les commentaires, s'il te plaît, Toby? Je vais répéter ce que tu vas dire, Gérard. Fait que je vais juste te demander d'être un peu plus bref, là, parce que tu n'as pas le micro.
OK. Jésus fait beaucoup référence aux enfants.
Oui.
Et si on ne reçoit pas la parole de Dieu comme un enfant, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu.
Oui. Oui.
Et la personne la plus expressive pour moi,
c'est un enfant.
Par exemple, c'est un enfant.
Oui.
joyeux de qu'est-ce qui vient d'arriver.
Non, c'est ça. Oui, c'est une belle comparaison. Belle comparaison.
Alors, c'est la même chose. Si un homme reçoit la parole de Dieu comme un enfant puis il s'exprime, on doit le recevoir comme une simplicité enfantine que Dieu adore.
C'est une belle comparaison. Fait que Gérard fait juste mentionner que le Seigneur Jésus nous encourage à être comme des enfants lorsqu'on vient. Dans ce cas-là, c'est la spontanéité de la foi, la crédulité de l'enfant qui croit, mais je pense que ça tient la route aussi de dire qu'on devrait avoir la simplicité aussi dans notre expression lorsqu'on est en train d'adorer Dieu. Merci, Gérard. Lorsqu'on va dans l'Ancien Testament, il y a tout un vocabulaire, il y a tout un langage qui est utilisé autour de l'adoration, puis on va les regrouper comme sous trois thèmes. Puis ils se recoupent un peu, mais il y a des nuances, puis on prend le temps d'aller voir ça pour que ça puisse enrichir notre compréhension à nous de l'adoration. Donc, je suis à la page 3 dans mes notes là, de la semaine dernière, la leçon 2. On a l'adoration comme hommage et soumission reconnaissante, l'adoration comme un service, puis l'adoration comme une révérence, un respect. Puis on va voir les nuances entre les trois, même si le premier puis le troisième semblent se rejoindre, c'est qu'on veut... On veut démarquer l'adoration qu'on voit dans l'Ancien Testament de ce qu'on voyait avec les peuples environnants. Le langage n'est pas exactement le même. Donc, hommage et soumission reconnaissante, service et puis révérence, respect. Hommage et soumission reconnaissante. Donc, ça, c'est un petit peu le langage que je parlais de se prosterner. Puis, ça ne veut pas dire, lorsque c'est utilisé, que c'est toujours, il y a toujours l'idée de se prosterner physiquement. Mais au sens propre, le mot veut dire ça. D'accord? Proskuneo, ça veut dire au sens propre se prosterner physiquement. Donc, très tôt, pour les Juifs, lorsqu'on cite la Septante pour l'Ancien Testament, et pour les chrétiens, il y a toujours dans l'adoration cette notion d'une révérence intérieure, comme si intérieurement je me prosterne. C'est pour ça que c'est tout à fait adéquat de baisser la tête lorsque je veux prier. Je ne suis pas en train de dire que je ne devrais pas prier comme ça. Je suis juste en train de dire que quand je suis en train de faire ça, je suis peut-être en train d'exprimer quelque chose. Je ferme peut-être les yeux pour me concentrer, mais je penche la tête un peu par révérence envers Dieu. Fait que très tôt, pour les Juifs dans l'Ancien Testament, pour les chrétiens, il y avait cette idée d'une révérence intérieure. Puis je vais faire une comparaison, parce que ce qu'on veut, c'est apprendre comment l'adoration biblique peut être différente d'autres adorations pour grandir nous-mêmes comme adorateurs. Si tu étais un moine bouddhiste, admettons, tu ferais de la méditation. C'est ça que tu serais en train de faire. Dans ta méditation, tu es comme en train de te mettre, je vais le dire comme ça, un peu en paix avec l'univers. D'accord? Tu n'es pas dans une position où tu vas te prosterner premièrement. Parce que tu n'es pas premièrement en train d'exprimer une soumission, une révérence envers quelqu'un qui t'est supérieur, c'est comme si tu étais en train de connecter avec l'univers dans une certaine mesure. Fait que, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la distinction. Et ça fait partie des choses qui peuvent être, en fait, qui sont souvent choquantes. Je parlais de mon souper hier soir. À un moment donné, dans la conversation, c'est sorti l'idée, ce jeune homme-là avec qui je jasais, il n'est pas allé dans l'idée de révérence, mais il disait comme l'idée d'un Dieu qui va nous juger. Ça, c'est comme... Il n'aimait pas cette idée-là. Bon, j'ai fait un argument qui semblait faire un peu de sens quand même, qui semblait être défendable pour justifier cela, mais ça choque les gens, souvent, dans notre culture, l'idée que je vais me soumettre. Puis... Notre culture est très, 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 très imprégnée d'une vision un peu plus bouddhiste, d'accord, de la transcendance, de la connexion avec le surnaturel ou avec l'origine de toute chose. Puis dans cette vision-là, il y a un respect, mais c'est comme si je m'intègre à l'univers. Pour nous, on ne s'intégrera jamais à Dieu. Dieu va toujours être une autre personne que moi. Je ne vais jamais devenir Dieu. J'entre dans la famille de Dieu. On l'a déjà vu dans l'Ancien Testament. Je vais entrer dans une alliance avec Dieu, mais je ne vais jamais m'intégrer à Dieu. Je vais toujours me prosterner devant Dieu. Vous voyez la nuance? Et donc, lorsqu'on, si dans votre vie de prière, vous dites, si je, dans mon adoration, ce que vous cherchez surtout, c'est une espèce d'exaltation où vous vous sentez aimé puis accueilli devant Dieu, peut-être qu'une belle manière de grandir puis de vivre quelque chose d'un peu plus profond avec Dieu, ce serait de revenir à cette idée-là que lorsqu'on s'approche de Dieu, on vient se prosterner devant lui. On va se soumettre à lui. On vient avec respect parce qu'il est notre créateur, notre bienfaiteur, notre protecteur. Et il y a cette révérence qui est là. Je m'approche devant Dieu. Puis lorsque je ne vois pas cette révérence première chez, admettons, David, c'est qu'il est en souffrance puis il est en train de crier à Dieu. Ça va venir, ça va être là dans le psaume, la révérence, ça va venir aussi, mais s'il n'est pas en train de souffrir puis en train de crier à Dieu, il y a cette idée premièrement qu'il est extraordinairement privilégié d'entrer dans la présence de Dieu, de s'approcher de Dieu, puis ça va s'exprimer par cette révérence-là. J'en déduis qu'au minimum, il devrait y avoir cette révérence-là dans notre cœur. Ça doit refléter une attitude intérieure. Est-ce que ça se tient? Oui? Quelques exemples qu'on a, par exemple, dans Genèse 24, versets 26-27. « Loué soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître. » Alors ça, c'est le serviteur d'Abraham. Oui, je viens à toi. Tu as une question? Ah, sur quelque chose que je viens de compléter. OK, vas-y Camille, je n'avais pas vu ta main. C'est parfait, vas-y. Yes. Attends, Jonathan t'apporte le micro. Merci. Jonathan, excuse Toby. Un réflexe, oui, il est allumé.
Alors, on va lui donner une chance. Bon, c'est bon. OK, c'est juste une question comme ça que peut-être quelqu'un pourrait avoir en tête lorsque tu dis, bon, le bouddhiste essaye de s'intégrer à Dieu. Mm-hmm. Évidemment, c'est pas de ça que la Bible parle lorsqu'elle dit, quand Jésus dit qu'il fait un avec son enfant, tu sais, que comme moi faites un.
Oui, c'est une
comme
bonne
moi,
question.
Je fais un. Oui. Donc, ça peut être comme quelque chose. Oui, mais il me semble des fois, il y a des versets qui semblent dire ça. Mais c'est. Peux-tu juste comme.
Oui,
juste
merci.
Comme faire un.
Merci, c'est un bon point. Bien, ça va dans le sens de ce que je mentionnais tantôt, l'idée qu'on est. On se joint à la famille. Donc, on est un par notre communion. Donc, le Père et le Fils sont dans une communion parfaite. De la même manière que le langage utilisé pour le mariage, c'est que les deux époux font une seule chair, d'accord? Donc, on est dans une communion intime. Et donc, on a le privilège d'entrer dans une communion, mais c'est une communion entre des personnes différentes. Ma personnalité à moi n'est jamais appelée à se désintégrer. Jamais. Jamais que je sois chrétien, non chrétien, ma personnalité, mon être comme identité là, est éternel. J'ai été créé à l'image de Dieu, tous les êtres humains le sont, bouddhistes, chrétiens, n'importe qui. Et cette identité-là, jamais je vois dans les Écritures qu'elle va se désintégrer. Et donc, si, lorsque Jésus dit qu'il est un avec le Père, il veut que nous soyons un avec lui comme lui est un avec le Père, c'est une observation de communion. C'est la rencontre entre deux personnes qui sont dans une parfaite communion. Et c'est pour ça que lorsqu'on les chrétiens cherchent à bien comprendre le Dieu de la Bible, on a inventé un mot qui s'appelle la Trinité, parce qu'on voit cette communion entre trois personnes qui sont clairement divines, mais qui sont encore trois personnes, puis qui pourtant sont un seul Dieu. Fait que bon, ça c'est un autre mystère, là, d'accord? Mais c'est ça. Donc je vais toujours garder mon identité. Alors que dans la vision bouddhiste, admettons, ton identité, tu n'es pas appelé à la garder toujours. Cette identité-là va se désintégrer un jour. Tu ne seras plus comme être individuel. Tu n'es pas appelé à être éternellement comme personne. Je pense que c'est pour ça qu'on voit des gens qui, à cause de ce qu'ils comprennent de la science, ont une vision plus matérialiste de l'humanité. On est fondamentalement de la matière, puis peut-être pas grand-chose de plus. C'est peut-être plus facile pour eux de dire, OK, peut-être qu'on est un peu plus. Je veux croire que je suis un peu plus. Ce que je suis, c'est une parcelle de divinité qui va s'intégrer au grand divin. Puis moi, je vais disparaître parce que de toute façon, je suis fondamentalement de la matière. Fait que quand ma matière va se désintégrer, à quelque part, mon âme, qui n'est plus une personne, va s'intégrer au grand divin. Tu sais. C'est réducteur un peu la manière que je le présente, mais je pense que pour plusieurs, ce bond-là est plus simple. D'accord? Maintenant, quand on va les questionner sérieusement, puis on dit, OK, donc tu es en train de me dire que Camille n'existera pas éternellement. Ton identité va entièrement se dissoudre. Si je prends le temps de le dire comme ça, c'est un petit peu plus difficile pour les gens de dire intuitivement, là, sans même la révélation, de dire, ouais, c'est ça que je crois. Je crois que mon identité va se dissoudre. Et je pense qu'en Occident, c'est une des raisons pour lesquelles c'est encore plus difficile. C'est que l'Occident était bâti sur des valeurs judéo-chrétiennes. Fait que chaque être la vision de l'être humain judéo-chrétienne, c'est que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. Dieu est une personne, nous sommes des personnes. Fait que pour nous, d'imaginer que cette personnalité-là va juste se dissoudre puis disparaître, c'est tout un saut, là, ça, à faire. En tout cas, on est un petit peu dans la défense de la foi, là. Je suis peut-être un peu en train de m'égarer. OK. Donc, c'est ça, le serviteur d'Abraham. Lorsqu'il s'en va, puis il y a une grande mission, il doit trouver une épouse pour le fils d'Abraham. Puis spontanément, lorsqu'il voit que Dieu répond à sa prière, qu'est-ce qu'il fait? Il va se prosterner par terre, puis il va se mettre à adorer Dieu. Spontanément, il s'arrête, il se prosterne, puis il se met à adorer Dieu. C'est cette idée-là de se prosterner. Moïse fait la même chose. Même Job, dans sa souffrance, dans son malheur, la première chose qu'il va faire, il va se prosterner par terre. Puis il va commencer à adorer Dieu, il va dire « Tu es Dieu ». Tu demeures Dieu malgré la souffrance dans laquelle je suis engagé. Maintenant, je suis au milieu de la page 4. Dans des textes qui interdisent aux Israélites de participer à l'idolâtrie sous quelque forme que ce soit, ou dans des contextes qui décrivent leur désobéissance à ses commandements, on a un nouveau verbe qui est là, hébreu, qui est assez souvent associé à ça. Puis lui, il veut dire « servir ». Donc, l'expression la plus commune qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est l'idée de se prosterner et servir. Les deux sont associés ensemble. Ce qui est interdit aux Juifs, c'est d'aller se prosterner et de servir des idoles. Fait que pour les Juifs, adorer Dieu, c'est se prosterner devant lui et le servir. Les deux vont ensemble. On est au service du Dieu que nous sommes en train d'adorer. Dans le psaume 95, on lit ceci, je suis au bas de la page 4. « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui et c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Donc, il y a vraiment cette idée-là de reconnaître la grandeur de Dieu, puis ensuite de ça, de venir se placer à son service. L'adoration est toujours un acte d'hommage et de reconnaissance. C'est toujours ça. C'est toujours ça qu'on est en train de faire. Fait que, probablement que si je vous avais demandé au début du cours, l'adoration c'est quoi? Puis je vous avais demandé, donnez-moi un mot synonyme. Plusieurs d'entre vous, vous auriez dit aimer. Adorer Dieu, c'est l'aimer énormément. D'accord? C'est vrai. C'est vrai. Mais si je vous dis, oui, mais le langage qui est utilisé, concrètement, comment est-ce qu'on aime Dieu? C'est celui de se prosterner par reconnaissance et le servir. Aimer, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Dans le langage le plus commun de l'Ancien Testament, c'est se prosterner et servir. C'est ça qui est le plus présent. Donc, lorsque je dis que j'aime Dieu, mais concrètement, si ça veut dire que vraiment l'aimer, c'est être révérencieux envers lui, respectueux, puis le servir, ça veut dire que l'aimer va se traduire avec tout un code d'éthique, une manière d'agir, un style de vie. Donc, c'est pour ça que Jésus va dire qu'on juge un arbre à son fruit, puis en même temps, il va nous dire de ne pas juger le cœur des individus. Parce que si j'aime beaucoup Dieu, ça se traduit dans ma vie en action. Ça paraît. J'ai un respect pour sa parole, j'ai une révérence envers sa parole. Je veux entendre ce qu'il est en train de me dire, puis je veux passer à l'action, je veux le servir. Puis il va dire à ses enfants, aux Israélites, par exemple, comment le servir. L'adoration est un service. Puis là, maintenant, on va aller un petit peu plus loin, d'accord? Puis certains d'entre vous, vous allez être un peu mal à l'aise, peut-être, avec ce que je vais vous partager ici, mais c'est une distinction importante entre l'adoration dans la Bible, puis l'adoration chez les peuples environnants, puis chez les païens à l'époque, qui servaient des idoles. Si vous allez au bas de la page 5, regardons d'autres mots grecs dans l'Ancien Testament qui nous aident à comprendre le sens de l'adoration du peuple d'Israël. Le verbe « latréuine » est un terme de l'Ancien Testament en grec qui est souvent traduit par « adorer et se prosterner ». D'après son usage biblique et non biblique, il vaut cependant mieux le traduire par « servir ». Il y a un mot en grec très explicite, plus explicite que « latréuine », c'est le mot « doulos ». D'accord? Douléo. Puis, ce mot-là est plus explicite parce qu'il est beaucoup plus intense. La tréhuine, c'est servir quelqu'un. Mais doulos, c'est le mot pour l'esclave. Un doulos, c'est un esclave. Donc, c'est un service qui est vraiment comme un entier abandon, une soumission complète, comme une soumission même contrainte. D'accord? Les peuples païens autour qui servaient des idoles, dans le langage grec, ne se servaient très rarement du mot doulos pour servir leurs idoles. Ils n'étaient pas les esclaves de leurs idoles. Maintenant, Dieu est venu pour nous libérer, puis pourtant, un langage très, très, très commun dans le Nouveau Testament, pour parler du service à Dieu, ça va être le mot doulos. Puis en fait, Jésus-Christ l'a utilisé pour lui-même. Donc, Jésus nous dit qu'il est venu servir les hommes, il a été notre doulos, d'accord? Mais ce mot-là n'était pas utilisé par les peuples païens qui servaient des idoles. Ça aurait été trop bas de s'abaisser au point d'être le doulos d'une idole. Mais les chrétiens se servaient régulièrement de ce mot-là pour dire « nous sommes les doulos de Dieu ». Fait que, Puis je sais, parce que chaque fois que j'enseignais là-dessus, j'ai des chrétiens qui viennent me voir et disent « Ah, j'aime pas tellement ça, l'idée de dire je suis l'esclave de Dieu. Je suis le serviteur de Dieu, c'est correct, je suis un serviteur, tu sais, il y a une noblesse. Hein? Et après tout, serviteur dans un restaurant, c'est payant, tu sais, t'es comme, tu tiens droit et tu es en train de servir. Non, tu n'es pas serviteur dans cette mesure-là, tu es plutôt l'esclave de Dieu. » Là, les gens sont mal à l'aise avec ça parce qu'ils disent « Ouais, mais ça nous dit quoi? » Ça nous dit certaines choses. Ça nous dit certaines choses, ça ne nous dit pas tout. Je ne suis pas juste l'esclave de Dieu, je suis aussi l'enfant de Dieu, je suis aussi le co-héritier avec Christ. Fait que le matin, quand je suis en train, moi, d'entreprendre ma journée, j'aime prendre le temps de me rappeler plusieurs aspects de mon identité en Jésus-Christ. Puis je prends le temps de voir ces choses-là. Je vais prendre le temps de me rappeler, aujourd'hui, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est pas, moi, je veux m'effacer, je veux laisser Christ prendre le devant dans ma personne, dans mes attitudes, mes réactions. Je suis prêt à m'effacer. Hey, j'aurais dit ça hier à la table avec le jeune homme avec qui jasais, tu sais. Pour moi, servir Dieu, c'est que je disparais, puis Dieu prend la place, puis Jésus... En plus, si je dis Dieu, bon, c'est Dieu, mais là, si ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ, puis moi, je veux disparaître, c'est comme, ça n'a aucun bon sens, tu ne peux pas faire ça. Mais moi, je prends le temps, le matin, de me rappeler, aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ça, c'est un aspect de mon identité. Mais souvent aussi, souvent, là, je suis dans la prière, puis je suis devant Dieu, puis je dis, Seigneur, aujourd'hui, Je veux me rappeler que je suis un prince héritier dans la maison de Dieu. Puis je vis avec ces deux aspects-là de mon identité en Jésus-Christ. Mais mon service comme prince héritier dans la maison de Dieu, co-héritier avec Christ, là, ça ne m'empêchera pas de prendre plaisir à être le plus bas des serviteurs pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas si certains vont se rappeler, j'ai taquiné l'église à un moment donné un dimanche matin, puis j'ai pris le temps de revenir là-dessus, puis ça me revenait dans la main, je dis, « Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça à l'église, il faudrait encore que je leur dise. » Moi, mon aspiration, là, c'est d'être le serviteur le plus bas dans l'église. C'est ça que je veux. Je veux, pour de vrai, je veux être celui qui est le plus humble et qui est le plus bas des serviteurs, parce que je veux tous vous planter au ciel. Parce que je veux être le premier au ciel. Puis j'ai une belle aspiration, hein? Mon ambition, c'est la gloire. Vous irez voir ça dans Romains 2. Mon ambition, c'est la gloire et l'honneur. Mais la gloire et l'honneur vont être mis à ceux qui vont avoir imité le Maître, qui s'est fait notre doulos, notre serviteur. Et il s'est fait notre doulos jusqu'à prendre tous nos péchés sur la croix. Tu ne peux pas être plus doulos que ça. Tu ne peux pas être plus esclave que ça. Il n'est pas juste venu nous servir pour nous faire du bien. Il est venu prendre tout ce qu'il y a de corrompu en nous. Toutes nos bassesses, il les a pris pour son identité à lui en prenant le péché. Il s'est fait péché à notre place. C'est jusque-là qu'il a été doulos. D'accord? Donc, lorsque les auteurs du Nouveau Testament parlent du service de Dieu, ils vont utiliser le mot « doulos ». Et dans mon adoration, je veux prendre plaisir à aimer Dieu jusqu'à me voir comme son esclave. Ça ne m'empêche pas de me rappeler que je suis un prince héritier dans la maison de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que glorifier Dieu, il n'y a pas de limite à ce que Dieu pourrait me demander d'accepter pour le glorifier. J'ai pas de limite à ça. Et je ne sais pas si vous allez vous rappeler, ceux qui étaient ici au début de l'année, avec la série, lorsqu'on a travaillé sur l'identité au mois de janvier, j'ai dit à un moment donné, si moi, quand je dis moi, c'est vous aussi si vous êtes chrétien, d'accord? Mais si moi, je me vois comme le doulos de Dieu, puis ce que je dois donner à mes frères et sœurs dans l'Église, c'est de les aimer comme Christ m'a aimé. Dans un certain sens, il n'y a absolument aucune offense que vous pourriez me faire qui devrait vraiment me troubler. D'accord? Christ a pris tous mes péchés sur la croix. Ça, c'est comme ça qu'il m'a accueilli. Il s'est fait pécher à ma place. Fait que dans un certain sens, vous ne me devez rien. Dans ma vision à moi, vous ne me devez rien. Et moi, je vous dois de vous aimer inconditionnellement toujours. Parce que c'est comme ça que Christ m'a aimé. C'est pas tout à fait vrai ce que j'ai dit, parce que si vous êtes chrétien, vous pensez la même chose. Donc, vous me devez de m'aimer, puis moi, je vous dois rien. Vous comprenez? C'est un petit peu un jeu de mots que je fais. Mais c'est parce que je pars de mon identité à moi. Puis quand je comprends mon identité à moi, moi, je suis un doulos de Dieu. Je suis un doulos de Christ. Il m'a racheté. Je suis un prince héritier. Mais je ne me promène pas avec ma couronne sur la tête, puis je m'attends à ce que tout le monde m'adore. C'est pas ça. Je sais que devant Dieu, mon héritage est assuré. Je sais qu'il veille sur moi. Et chaque fois que je me comporte comme l'esclave de mes frères, parce que je suis serviteur de Dieu, je sais qu'il est en train de dire, « T'es vraiment un prince héritier dans la maison de Dieu, parce que tu es un imitateur de Jésus-Christ. » Et donc, ce que ça me donne, c'est une grande liberté. Je veux dire, les gens peuvent me faire le plus grand mal qu'ils veulent. Tout ce qu'on me donne en me méprisant, c'est ce que j'ai déjà accepté. Je suis un doulos, je suis un esclave, je suis un serviteur. J'ai déjà accepté ce mépris-là. Parce que ce que les gens font en me maltraitant comme ça, ça ne dit rien sur mon identité pour de vrai. Je suis un serviteur de Dieu, puis je suis un prince héritier dans la maison de Dieu. Et c'est pas de la gymnastique mentale que je suis en train de faire, là. C'est comme ça que je suis en train d'adorer et servir Dieu. C'est en acceptant d'être un doulos. Et c'est Je vous dirais que c'est une des attitudes où je peux le plus adorer et glorifier Dieu. C'est lorsque des gens me traitent mal, puis je dis, « Seigneur, tu as tellement été maltraité pour que je sois sauvé. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas ce qu'ils font. » Camille, tu avais une question. Est-ce qu'on peut avoir le micro pour Camille? Il s'en vient. Puis on va s'arrêter bientôt. En fait, je m'excuse, là, je me suis emporté encore une fois. On va compléter ça la prochaine fois. Yes.
Justement, sur ce point-là, parfois, on est un peu... on pourrait se demander, c'est quoi vraiment la différence entre le bouddhisme qui essaie de se convaincre qu'il n'a pas mal ou qu'il n'y a rien qui l'atteint.
De se détacher de la souffrance.
De se détacher de la souffrance. Il y a une différence entre se détacher de la souffrance émotionnellement, d'être spock, et de ce que tu viens
d'expliquer. Absolument.
Là. Absolument. C'est juste comme retaper
c'est bon,
le
merci,
clou.
Merci. Quand Paul dit, quand l'apôtre Paul, ça je suis certain que plusieurs d'entre vous avait été bogué quand vous avez lu ça. Quand l'apôtre Paul il dit qu'il il prend lui-même pour compléter les souffrances qui manquent au sacrifice de Christ. Vous êtes-vous déjà demandé c'est quoi que ça veut dire cette affaire-là? Parce que je pense que le sacrifice de Jésus est pas mal complet pour notre salut, tu sais. Fait que de quoi on est en train de parler? Puis Paul est en train de parler de toutes les souffrances qu'il endure pour l'Église parce que Christ est à l'œuvre à travers lui. D'accord? Donc, comme chrétien, je ne suis pas indifférent au mépris que les gens me font. C'est pas que je suis indifférent, c'est pas que ça ne me fait pas souffrir. C'est que si quelqu'un me méprise, même si dans l'Église je suis méprisé par quelqu'un, la manière que j'interprète ce qui est en train de se passer là est fondamentalement différente. Je suis en train de communier aux souffrances de Christ. Christ a accepté de souffrir pour le pardon de mes péchés, puis moi, je suis un porte-parole de Christ. J'ai l'Esprit de Christ qui habite en moi. Fait qu'accepter de souffrir pour que l'Évangile soit propagé, accepter de souffrir pour que, dans ma réaction, les gens disent « Aïe, il était vraiment comme Jésus. » Parce que quand on y crachait dessus, c'était quoi qu'il disait? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Quand Jésus, on lui crachait dessus, il ne disait pas « Justice! Je réclame justice! » Mais nous, dans notre chair, si quelqu'un nous crache dessus, on dit quoi? « Hey, bonhomme! Un peu de respect, s'il te plaît, je suis un individu. » D'accord? Ce qui n'est pas faux. Mais si je décide de regarder ça à travers le regard de Christ, je vais avoir une réaction complètement différente. Donc, je ne suis pas en train de nier la souffrance. Je suis en train d'accepter la souffrance. Je suis en train de l'accepter à cause de Christ. Et si je me rappelle ce qui se passe à la croix, Christ est en train de souffrir à la croix, je pense qu'on va s'entendre là-dessus. Là, on n'a pas un moine bouddhiste qui est en train de se faire crucifier puis qui dit « Ah, je ne sens plus rien dans mon corps. » C'est pas ça qui se passe, là. Okay? Il souffre en mourir. D'ailleurs, il va en mourir. Fait qu'il va mourir plus vite que tu devrais mourir tellement la souffrance est terrible. Il meurt plus vite qu'un crucifié normal, d'accord? C'est clair, ça c'est très clair. Les soldats sont surpris de la vitesse à laquelle il va mourir. Donc, il va souffrir. Mais donc il accueille cette souffrance-là, puis ça produit quoi en lui? De l'intercession. C'est ça qui se passe lorsqu'il est sur la croix? Il prie en faveur de ses bourreaux. C'est ça qu'il fait. Fait qu'un chrétien, lorsqu'il accepte qu'il est, oui, un prince héritier dans la maison de Dieu, mais il y a un doulos aussi, il accepte la souffrance, il accepte à cause de Christ, il n'y a pas de surprise à ce qu'on me maltraite, il y a pas, je ne le prends même pas comme une véritable offense personnelle, je suis en train de porter le nom de Christ, j'accepte ça, puis ça devrait me conduire où? À l'intercession. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. D'accord? Maintenant, je ne suis pas en train de dire, qu'il n'y a pas de place pour qu'un chrétien dise, « Seigneur, viens faire justice sur la terre, tu vois bien comment la terre va. » Comprenez? Je termine avec ceci. Je termine avec une dernière idée, là, puis je vais... Ça, c'est un petit peu mes gymnastiques mentales, mais je veux quand même provoquer un petit peu votre réflexion. Un chrétien peut demander la justice. J'ai déjà dit à l'Église, moi, si j'entends qu'il y a un violeur, un abuseur qui est libre. Personnellement, je fais des imprécations. Je sais que je n'ai pas fait beaucoup de disciples encore dans l'Église pour faire des imprécations, mais je fais des imprécations. Je prie comme ceci. « Seigneur, si tu dois sauver, sauve-le. Si tu n'es pas pour le sauver, frappe-le et qu'il meure rapidement. » Parce qu'il est en train de chercher sa prochaine victime. J'ai aucun problème avec ça. On pourrait débattre avec les Écritures. J'ai plein de psaumes pour justifier comment je suis en train de prier, d'accord? Maintenant. Lorsqu'on est offensé par quelqu'un qui nous fait du mal, puis on réclame la justice, est-ce qu'on est vraiment prêt à réclamer la justice? Ou est-ce qu'on voudrait juste que la personne vienne nous rendre hommage? Fait que tu as un conflit avec quelqu'un, puis ton sentiment, c'est là, faut qu'on aille s'expliquer, j'ai besoin là, tu sais, qu'il reconnaisse son tort. Pourquoi? Tu veux la justice? Tu peux la demander, la justice. Dieu, c'est un pécheur, viens le frapper. Ça, c'est demander la justice. Mais tu fais pas ça. C'est pas vraiment ça que tu veux. Tu veux qu'on te rende justice à toi, à là où tu as été offensé. C'est plus simple et c'est plus sain et c'est plus chrétien juste de dire, Seigneur, la justice, là, c'est toi qui l'as pris à la croix. Je suis vraiment content que tu aies pris la justice à la croix parce qu'autrement, moi, je m'en irais en enfer. Fait que, fais comme tu as fait pour moi, Seigneur. Pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est beaucoup plus simple de le faire comme ça. Accepter d'être un doulos, accepter que je vais être traité injustement parce que je marche parmi les pécheurs et prendre ça puis dire, Seigneur, c'est-tu merveilleux ce que tu as fait? Accepter d'être traité injustement pour que je sois pardonné. Puis je le vois, là, je le subis, là. Je peux aller communier avec toi puis apprécier l'Évangile davantage puis ton amour puis ce que tu as fait pour moi. Puis en passant, Seigneur, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est bon? On va s'arrêter ici. On va terminer avec un petit mot de prière. Père éternel, merci pour ta parole, Seigneur. Quelle est merveilleuse. Ce Dieu que tu es, qui se révèle à travers les Écritures, est tellement plus beau, tellement... On se reconnaît comme être humain tellement bien, Seigneur, dans ce que tu es, dans ton amour, dans ta grâce, dans ta justice, Seigneur, dans ta sainteté. Je ne voudrais pas d'un Dieu qui ne serait pas une personne, Seigneur. Une force quelconque, impersonnelle. Et Seigneur, on veut apprendre à se prosterner devant toi. Intérieurement, toujours avoir cette attitude de respect envers toi, Seigneur, de soumission envers toi, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à être des adorateurs en esprit et en vérité. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.